Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Installé depuis 2009 rue de Loum, à Sous, Bernard Bourelli est bijoutier joaillier. Il crée et fabrique ses propres modèles, transforme et répare vos bijoux anciens ou plus récents. Sa boutique, La Fibule, est également son atelier. On peut y admirer ses bijoux et le voir travailler. Il nous présente tout de suite La Fibule.
Mon atelier est un atelier de création, fabrication de bijoux, bijoux en argent, en or sur commande, et éventuellement bronze et cuivre. C'est une activité que je pratique depuis 1971, avec des emplois dans différents ateliers sur Lyon, et ensuite un autre atelier, un atelier que j'avais installé à Annecy, que j'ai cédé parce que ça me prenait beaucoup trop de temps, ça avait pris un volume important. Et voilà, j'ai désiré revenir à une structure plus artisanale, plus humaine. Voilà, donc ça fait 3 ans que je suis installé, l'activité se met en place tranquillement. Une clientèle de touristes et une clientèle régionale assez fidèle. Ce sont tous des pièces uniques, ce sont des bijoux, voilà, ce sont des pièces uniques, argent massif, avec quelques ornementations d'or, de pierre, de différentes pierres, lapis-lazuli, onyx, nacre. Bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles. Parallèlement à ça, je fais aussi de la réparation. Réparation de bijoux argent et or. La transformation des bijoux, bijoux anciens qui traînent dans les tiroirs, qui sont réactualisés sur des formes plus modernes, on va dire. C'est à peu près 50% de création et 50% de commande. Alors formation, 3 ans d'école de bijouterie, CAP, à la clé. 3 ans après, j'ai passé un CAP de joaillier en cours du soir. Et puis après, c'est formation sur le tas, donc formation au niveau du sertissage, au niveau de la fonte, au niveau, voilà, tout. Les années passées font l'expérience, la patience et puis le plaisir du produit fini, voilà, que ce soit agréable à l'œil et donc pour ça, oui, ça demande de la persévérance dans la finition des bijoux. Tout est vendu sur place. L'atelier est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à midi et 15h à 18h30 toute l'année, sauf au mois de janvier où il fait trop froid pour les touristes et pour les clients. Alors la fibule, c'est l'ancêtre de l'épingle de nourrice qui servait à tenir les vêtements dans l'Antiquité. Vêtements, les drapés des Gaulois, des Romains, voire des deux. Et pourquoi atelier la fibule? Parce que c'est un nom qui me plaît et qui est attirant et qui fait poser question.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioVallée.
Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel opus du magazine Biotope, la BioVallée en pratique, diffusée simultanément à 18h sur RDIWA et Radio Saint-Ferréol, le jeudi, rediffusée le samedi à 12h10 et en différé sur Radio Méga. Une émission qui vous invite à découvrir les bonnes initiatives du territoire de la vallée de la Drôme. Ce jour, dans nos studios. Nous visiterons en compagnie de Jean-Marc Bouvier un nouveau dispositif mis en place depuis 2012. En effet, la CCVD s'est dotée d'un centre intercommunal d'action sociale, CIAS. Il en existe près de 350 en France. Celui du Val-de-Drôme a été le premier dans notre département. Ils n'entendent pas se substituer au CCAS des villes et villages, mais venir plutôt en appui à leur action et les renforcer. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Comme je le disais dans mon chapeau de présentation, le CIAS, Centre Intercommunal d'Action Sociale, n'a pas vocation à octroyer d'aide directe ni à remplacer les CCAS.
Oui, absolument. L'idée, c'est que sur le territoire, on a des CCAS qui sont déjà parfaitement opérationnels sur nos centres urbains, Livron, L'Oriole, avec des CCAS professionnalisés, des élus dédiés, et donc des organismes qui fonctionnent et qui tournent déjà. Par contre, le pendant sur le territoire, c'est que ces petites communes qui sont majoritaires chez nous ont du mal à organiser l'action sociale. Elles ont des CCAS qui reposent sur des actions volontaires de certains élus, mais pas derrière ni le personnel ni les moyens financiers qui correspondent. Donc il s'agissait de permettre aux CCAS des petites communes de bénéficier autant que possible des mêmes capacités d'agir que de nos grands CCAS, mais sans pour autant déshabiller les uns pour habiller les autres, c'est-à-dire qu'il s'agit de créer plutôt une synergie à ce niveau-là que de fragmenter au contraire. Oui.
Alors vous en parlez si bien parce que vous êtes vice-président du CIAS du Val-de-Drôme.
Oui.
Voilà. Et donc vous êtes, on va dire, le mieux placé pour nous parler de la naissance de cette idée. Au départ, c'est venu comment ?
Alors c'est venu d'une façon assez naturelle. Il se trouve que les services en charge des solidarités dans le cadre de la communauté de communes avaient déjà commencé à travailler en réseau avec les CCAS, avec les CCAS de Livron-L'Oriole sur des opportunités qui étaient assez évidentes, mais d'une façon un petit peu plus fine et subtile avec les autres. Il y a eu un gros travail de mise en réseau qui s'est fait progressivement avec les élus locaux qui étaient en charge de ces problèmes sur certains territoires, la Basse-Vallée de la Drôme, la Gervanne, et puis progressivement la mise en place de réunions de concertation, d'information, de formation aussi, qui ont trouvé un écho et qui font que petit à petit, des liens se sont créés qui ont progressivement poussé à une évidence qui était celle que le CIAS pouvait avoir du sens dans ce cadre-là. Oui.
Donc il a fallu rassembler, puis tomber d'accord sur les vocations premières de ce CIAS. Donc, pour être synthétique, quelles sont-elles ces missions ?
Alors, la première mission qu'on s'est donnée au niveau du CIAS créé avait du sens pour l'ensemble du territoire, justement. C'est-à-dire que on a souhaité réaliser l'analyse des besoins sociaux, qui est une démarche normalement obligatoire au niveau des territoires, mais qui ne se pratiquait pas jusque-là. Elle ne s'était pas faite sur Livron-L'Oriole pour des raisons vraisemblablement de disponibilité et de capacité. Elle ne se faisait évidemment pas sur les petites communes parce que c'était inconcevable. Et donc cette première démarche a paru une démarche qui pouvait être fédératrice pour rendre ce service-là à tout le monde. Et puis en même temps, c'est une démarche qui a tellement de sens au niveau de l'action sociale sur un territoire que ça s'imposait pratiquement. Donc on a fait ce choix-là, partir sur l'analyse des besoins sociaux, la réaliser. L'analyse aujourd'hui est faite, le rendu en a été fait à la communauté de communes par le CIAS.
Alors, peut-être que, avant d'aller plus avant dans la présentation du CIAS, on pourrait peut-être, toujours de manière synthétique, nous donner une petite vision du portrait des besoins sociaux qu'il existe sur notre territoire.
Oui, alors il y a un certain nombre de bonnes nouvelles qui ressortent de cette analyse, et puis il y en a qui font plus écho dans le sens des difficultés que peut rencontrer le territoire. Les bonnes nouvelles, c'est la dynamique de ce territoire qui est attractif au niveau de la population, qui attire en particulier des populations diplômées, ce qui est intéressant sur Livron, sur L'Oriole, sur Livron particulièrement. On voit arriver des jeunes diplômés.
On a un territoire qui, au niveau de la démographie, enfin de la des naissances, est aussi très actif. Le pendant, c'est que c'est un territoire qui est pour autant vieillissant. On a de plus en plus de personnes âgées parce que celles du territoire vieillissent et puis parce que certaines sont arrivées aussi au moment de la retraite. Et donc, on a progressivement un vieillissement de ces populations avec un taux de personnes âgées de plus de 75 ans qui devient assez conséquent, ce qui crée, ce qui pose des problématiques nouvelles, bien sûr, en termes de lien social. Ça, c'est pour les nouvelles majeures. Au-delà, on a une population qui est relativement en moyenne aisée, c'est-à-dire qu'on ne souffre pas trop de richesse localement, sauf que c'est évidemment contrasté. On a des populations qui sont dans la précarité comme partout. Et ce qui est relativement satisfaisant sur notre territoire, quoique interprété relativement, c'est que l'écart entre les revenus médians les plus élevés et les moins élevés est en proportion assez faible par rapport à ce qu'on rencontre sur d'autres territoires. Donc une relative, on peut pas parler d'homogénéité, mais moins de différence de ce point de vue-là, ce qui est toujours intéressant. Ouais.
Une analyse qui a certainement dû aussi se porter sur un public qui n'est dans aucun chiffre, qu'on nomme souvent les invisibles, c'est-à-dire des gens qui pourraient avoir besoin d'un service de proximité, mais qui n'en profitent pas.
Alors, tout à fait. Et ça reste une préoccupation qu'on avait d'emblée quand on a mis en place l'analyse, à savoir une analyse du non-recours, qui est une problématique très forte et très conséquente pour notre société, et qui avait à être évaluée particulièrement dans le cadre d'un territoire rural, parce que le non-recours en ville, on en prend de plus en plus conscience, de plus en plus facilement. Il y a des indicateurs qui deviennent assez précis. En milieu rural, c'est beaucoup plus discret parce que on a du mal à être au contact de la population concernée. Et il y a effectivement beaucoup de gens qui échappent aux droits auxquels ils auraient droit d'une façon théorique. Ouais.
Et cette population, vous avez une idée un petit peu de la quantité de personnes qui échappent?
Non, parce qu'il est très difficile, dans la mesure où on parle de population invisible, il est très difficile d'évaluer à quelle hauteur elle se trouve et où. Par contre, c'est l'objet du prochain volet de l'analyse des besoins sociaux qui devrait être consacré en 2014 à un zoom particulier sur ces problèmes. On va demander à une personne qui travaille sur l'observatoire qui avait été mis en place à Grenoble au niveau universitaire, qui s'est dédié à cet aspect-là. Et on va leur demander de pousser la réflexion et sur ce sujet, effectivement. Ouais.
Si vous le voulez bien, on continue un peu à visiter les vocations et objectifs de ce CIAS. Donc il y aura effectivement, comme vous le soulignez, tout un travail d'information au niveau des élus, mais aussi de formation.
Oui, tout à fait. En particulier en cette période de renouvellement des assemblées, on sait qu'il va être nécessaire de remettre à niveau les futurs élus qui seront en charge de l'action sociale, parce qu'un certain nombre d'entre eux arrivent sans expérience de la chose et que tout ça est d'une complexité assez forte. Il faut analyser comment agir d'une façon efficace, ne pas se disperser, savoir où frapper à la bonne porte. Il y a tout un travail de formation à faire à ce niveau-là. Mais ça, dans la continuité de ce qu'on avait mis en place, on va mettre simplement un coup de booster, là, cette fois, parce qu'il y a ce renouvellement des assemblées. Mais c'est un travail maintenant qui est devenu récurrent, régulier. On a à peu près 4 cycles de formation par an sur différents thèmes qu'on prolongera, donc.
L'idée d'installer un CIAS, c'est effectivement qu'il puisse naître, bien sûr, et puis se développer. Donc de quelle manière, bon, pour l'instant ce ne sont encore que des projections puisqu'on en est au tout début, mais de quelle manière vous envisagez ce développement?
Alors je pense que sur cet aspect de l'action sociale, il faut nécessairement qu'il y ait un partage par la collectivité de l'intérêt que ça représente pour tous. Il y a une idée première qui est de faire comprendre que c'est de notre intérêt collectif de traiter les problèmes sociaux avant qu'ils aient pris de l'ampleur, parce qu'au-delà, ça devient beaucoup plus difficile à gérer. Il y a un travail donc de conviction à pratiquer auprès des assemblées qui s'y prêtent relativement bien, puisqu'elles ont admis la création du CIAS, ce qui représentait déjà une démarche qui pouvait rebuter certains. Donc on a franchi ce pas-là, et au-delà, il faut qu'on continue à progresser dans ce sens-là, de façon à ce que tous se sentent impliqués par l'action sociale sur le territoire, tous aient envie de vérifier que nos actions sont pertinentes et qu'elles donnent le retour qui était attendu. Mais c'est quelque chose qu'on doit arriver à obtenir assez facilement, je pense, parce que ça fait partie des responsabilités théoriques de chaque élu, en fait.
Donc on peut imaginer, enfin je ne sais pas si c'est encore le cas et si c'est chiffré, que le CIAS trouvera, on va dire, vraiment sa pleine capacité dans combien de temps ?
La logique est que la montée en puissance soit régulière, lente mais régulière, de façon à ne pas provoquer de rupture, ne pas provoquer de désordre dans ce qui se fait déjà, mais qu'on soit bien en montée progressive de synergie. La vitesse à laquelle on le fait n'a pas trop d'importance. Ce qui importe, c'est qu'on y arrive. Il faut imaginer qu'on aura des besoins financiers supplémentaires, qu'on aura besoin progressivement de structurer en termes de personnel, etc. Mais quand on regarde ce qui se passe sur d'autres territoires, les CIAS ont parfois des compétences très très fortes dans plein de domaines, y compris portent les politiques concernant la petite enfance, la politique de soins, la politique de santé en général. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là, mais nécessairement à envisager d'une façon suffisamment respectueuse des temps et des personnes pour que ça se fasse en bonne entente.
Laissez parler un peu les anciens et regardez le creux de leurs mains, les lignes tracées par ce long destin nous laissent deviner une vie bien menée. Hey, grand-père, on a manqué de temps, toujours un truc à faire, souvent inutilement. Hey, grand-père, tu me manques tellement, la sagesse, les repères, mes belles années d'enfant. Hey, grand-mère, je vais venir plus souvent, 38 ans sur cette terre, et je te connais pas vraiment. Hey, grand-mère, comment c'était avant, comment était mon père, comment tu vois le présent. Laissez parler un peu les anciens et regardez le creux de leurs mains, les lignes tracées par ce long destin nous laissent deviner une vie bien menée. Maybe fake, Jake Oroba. C'est pas de l'abandon, c'est cette vie trop chère, la course des saisons. Hey, grand-père, excuse mon absence, mais j'ai tellement à faire que j'en oublie ta présence. Hey, grand-mère, je vais faire un effort, la vie passe si vite et j'ai peur des remords. L'époque sépare nos familles et je vais tout faire pour stopper cet exil.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Le bouclage financier de ce genre d'organes va permettre d'un certain côté de faire des économies.
Alors des économies, oui, sauf que on a bien sûr envie d'en faire, donc je veux dire de faire des actions complémentaires. Donc à un moment ou un autre, ça passe effectivement par un engagement financier des collectivités. Simplement, l'idée, c'est que la qualité de l'engagement soit à la hauteur de l'effort qui est fait et que tout cela soit justifié par les résultats qu'on apporte. On aura bien sûr des comptes à rendre de ce point de vue-là. Quant à l'abondement financier du CIS, on peut imaginer à terme que le CIS crée ses propres ressources. Il est possible d'envisager effectivement qu'il soit abondé par d'autres moyens que par la subvention des collectivités. On en reparlera sûrement quand on évoquera le projet de développement, qui n'est déjà plus un projet, d'ailleurs on passe en phase de réalisation, mais concernant l'épargne locale, où on a vocation à contribuer aussi aux actions de solidarité à travers le fonds concret.
Le CIAS donc aura une équipe de salariés. Ça va commencer comment? Par un travailleur social?
Alors l'idée du travailleur social est bien sûr présente. La capacité qu'on a à l'embaucher n'est pas encore comprise et admise par tous, et il va falloir y travailler, mais à terme il est évident que ça passe par là. Travailleur social qui aura pour vocation d'établir le lien entre les différentes structures, les élus, les différents éléments du territoire. On peut imaginer qu'il aura un rôle aussi pour aller à la rencontre des jeunes, puisque c'est là aussi quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte et qu'on arrive à mettre en place. On a toute une population de jeunes qui sont difficiles à joindre. Les élus communaux ont du mal à les rencontrer, ont du mal à leur faire exprimer leurs besoins réels, et je pense que le travailleur social de ce point de vue-là sera beaucoup plus à même de le faire.
Pour les communes, alors je sais pas à partir de quelle importance on est obligé d'avoir un CCAS.
Le CCAS est théoriquement une structure que toutes les communes ont, alors avec un exercice qui varie effectivement en fonction des besoins, mais dans toute commune, le maire est président du CCAS qui est censé exister, oui.
Et donc pour trouver du soutien, pour trouver de l'action, le CIAS va aussi s'appuyer sur les structures type MJC, centre social.
Alors bien sûr, sur tous les acteurs locaux qui sont bien au contact des populations et bien immergés dans ce travail-là depuis longtemps, il y a des compétences un peu partout dans ce domaine, il y a des relais partout, il y a les MJC effectivement, il y a toutes les actions qui ont vocation à intervenir sur le territoire dans ce domaine, je pense aux associations des Restos du Cœur, aux associations caritatives qui interviennent dans plein de domaines et qui sont nos partenaires naturels, et qui d'ailleurs sont associés autour de table, qui sont présents dans le conseil d'administration du CIAS.
Alors pour les jeunes, par exemple, qui nous écouteraient, vous avez décidé de travailler sur quel axe premier, on va dire, auprès du public jeune?
Alors, une des premières préconisations issues de l'analyse des besoins sociaux est d'essayer de favoriser en particulier la mobilité chez les jeunes, le rapport qu'ils peuvent avoir avec les organismes susceptibles de favoriser leur accès au travail. De ce point de vue-là, on a repéré évidemment qu'il y avait des problèmes en termes de mobilité sur l'acquisition du permis de conduire, sur la capacité à avoir des véhicules qui leur permettent de se déplacer. Aujourd'hui, chercher du travail pour un jeune, c'est déjà accéder à une forme de mobilité qui l'autorise, et c'est pas toujours évident. Quand vous êtes jeune chômeur dans la Germane, on imagine qu'il y a effectivement de lourdes difficultés pour répondre aux demandes des organismes porteurs de la recherche d'emploi. Qui est évident aussi quand il s'agit par exemple de l'accès au Resto du Cœur. On sait que sur certains territoires, la mobilité est un obstacle définitif au fait de pouvoir profiter de l'aide des Restos du Cœur. Sur les jeunes, on a aussi d'autres envies, c'est d'aller les rencontrer, parce que On a souvent cette difficulté à établir un lien avec eux. On peut imaginer à terme des points info itinérants qui iraient à la rencontre de nos jeunes scolarisés collèges et lycées sur le territoire, ce qui nous permettrait d'établir un lien qui favoriserait au-delà le lien au sein des communes. Une fois que l'acteur est reconnu, c'est beaucoup plus facile de maintenir ce lien, y compris quand les jeunes sont revenus dans la commune.
Et pour les anciens ?
Alors, pour les anciens, on disait tout à l'heure que la population était vieillissante, ce qui est générateur de problèmes, là aussi, de mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès aux soins devient un problème, parfois. On est en situation... On peut utiliser le mot de désertification médicale attendue. Le nombre de médecins présents sur le territoire est en train de... on est en situation de risque du fait du vieillissement des praticiens et de la difficulté manifeste qu'ils ont à être remplacés. Donc là aussi, on est acteur sur ces sujets-là. On a un contact régulier avec les médecins du territoire pour essayer de favoriser l'émergence de structures de santé qui favorisent l'accès des populations aux soins, et donc particulièrement pour les personnes âgées. On a veillé aussi à la possibilité d'assurer un lien transgénérationnel qui favorise éventuellement les déplacements. On a imaginé des passeports, des espèces de partenariats, de parrainage entre des jeunes dotés d'un permis, des anciens dotés d'une voiture, de façon à mettre tout ce monde-là en relation et favoriser des déplacements.
Alors en termes de prévention, parce que c'est aussi quelque chose de très très important chez nos jeunes, est-ce que le CIAS aura aussi cette vocation de soutenir par exemple des associations dont on a déjà entendu parler, la sauvegarde de l'enfance qui intervient sur nos villes et villages. Est-ce qu'il y aura aussi un volet au CIAS autour de la prévention ?
Oui, ça doit s'imposer. C'est évidemment un domaine sur lequel on ne peut pas être absent. Et ça fait partie de nos projets, effectivement, de favoriser les interventions. Alors, il y a un certain nombre d'associations qui le font déjà très bien. Mais à nous d'animer un peu tout ça et de créer un peu de bouillon autour de ces aspects-là et favoriser ces démarches préventives qui sont, de notre point de vue, effectivement, centrales sur ces sujets.
Donc, on va parler enveloppe et finances maintenant pour avoir un petit peu une idée des perspectives et puis ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, puisque parfois le nerf de la guerre, c'est aussi un peu d'argent.
Bien sûr. Bien sûr, j'irai pas jusqu'à faire un appel au legs tout de suite, mais l'idée, c'est un peu ça.
Donc, vous partez sur une enveloppe de combien et vous pensez développer une action cohérente avec combien ?
Alors, pour le premier exercice, on est parti avec une enveloppe de 40 000 euros qui correspondait, donc qui est abondée par la collectivité, et qui correspondait aux besoins permettant de couvrir l'analyse des besoins sociaux, permettant de couvrir la prochaine analyse portant sur le non-recours, et permettant de maintenir les actions de formation et d'information qu'on avait mises en place, permettant aussi de soutenir les actions de soutien au CCAS, qui était déjà en place et qu'on pérennise. Je pense en particulier à la journée qui vient de se produire en Gervanne, qui est quelque chose de récurrent. Les CCAS de la Gervanne, représentant donc 5 communes de ce territoire, se regroupent pour organiser chaque année maintenant un spectacle qui est offert aux populations, mais particulièrement aux personnes âgées. Ce spectacle est fait en partenariat donc avec le CIS maintenant, et c'est un moment riche parce qu'il permet dans cette vallée à des gens de se retrouver qui ne s'étaient pas vus depuis très longtemps. En fait, c'est un créateur de liens sociaux, et ça aussi, ça fait partie de nos missions du coup.
Merci beaucoup Jean-Marc Bouvier.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.